qu'ils essayent de rendre le métier militaire le plus attractif possible. Uh-huh. Mais du coup, ça leur coûte beaucoup d'argent pour leurs propres militaires, d'où le recours à des mercenaires amateurs étrangers.
Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en 2023. Quel impact la guerre en Ukraine a-t-elle eu dans les relations russo-africaines ? Pour commencer, on retiendra deux chiffres. 43 chefs d'État et de gouvernement africains étaient venus au premier sommet russo-africain à Sotchi en 2019, contre 17, selon le Kremlin, au sommet de Saint-Pétersbourg en 2023. Ça montre que la Russie n'était pas totalement isolée en 2023, alors qu'elle avait déclenché la guerre en 2022, mais qu'elle l'est quand même davantage qu'en 2019. Thierry Vircoulon, le continent africain, c'est un enjeu pour la Russie à l'ONU. C'est 54 voix aux Nations Unies.
Oui, tout à fait. C'est un enjeu dans le cadre de l'ONU, mais pas seulement dans le cadre de l'ONU. Mais il est clair que quand la guerre en Ukraine a éclaté et qu'on analyse le vote des pays à l'ONU sur la condamnation de cette agression russe, on se rendait compte en effet que l'Afrique, les États africains étaient très prudents et qu'ils se répartissaient. Alors il y avait un groupe minoritaire qui votait avec la Russie. Il y avait un autre groupe plus important qui condamnait l'agression russe. Et puis, il y avait surtout une majorité qui était assez abstentionniste. Et en fait, au fur et à mesure de la guerre, on voit que cette majorité abstentionniste diminue un peu. Le groupe des soutiens de la Russie reste le même, à peu près. Mais en même temps, on sent qu'il y a un scepticisme à l'égard de la Russie,
ouais,
parmi les États africains. Et notamment parce que, évidemment, la diplomatie russe a dit partout en Afrique qu'elle allait soutenir les efforts de développement du continent. Et donc, elle a fait beaucoup de promesses de coopération économique. Et ces promesses de coopération économique ne se matérialisent quasiment pas.
Ouais, quels sont-ils justement ces pays qui continuent de soutenir la Russie malgré son agression en Ukraine ?
Tout à fait, ce sont les régimes qui accueillent les paramilitaires russes. Donc qui étaient les Wagner au début, puis qui maintenant...
Oui, Wagner qui porte désormais le nom d'Africa Corps, présent au Mali, Centrafrique... Burkina.
Voilà, Mali, Centrafrique, Burkina Faso aussi, le Niger maintenant du général Tiani, la Guinée équatoriale également qui accueille des paramilitaires, plus l'Érythrée. Donc voilà un peu les inconditionnels de la Russie en Afrique subsaharienne. Mmh.
Dans les conditions modernes, il est impossible de défendre les intérêts nationaux de la Russie sans utiliser la force. Et les pays du Sud global qui ne disposent pas d'une armée forte, eux, ne peuvent pas résister à la politique néocoloniale de l'Occident collectif. Le corps africain russe a déjà pu stabiliser la situation dans des États tombés sous le contrôle de groupes terroristes.
Voilà, la Russie communique désormais sur cette force Africa Corps avec ce reportage qu'on entend là qui a été diffusé sur la télévision russe. Moscou vend donc son soutien militaire contre la menace djihadiste en échange d'un accès aux ressources naturelles. Or, on sait que le djihadisme ne cesse de gagner du terrain au Sahel. Entre la Russie et l'Afrique ne date pas d'hier. À l'époque de la guerre froide, Moscou soutenait militairement des mouvements d'indépendance. La Russie a accueilli des élites dans ses universités et construit des infrastructures sur le continent. L'effondrement du bloc soviétique en 91 a mis un coup d'arrêt à cette implication. La Russie n'a eu les moyens de revenir sur le continent africain que dans les années 2010 pour investir dans les hydrocarbures et les mines, notamment dans l'extraction. Elle a développé un marché dans la vente d'armes. Elle a aussi investi dans le domaine sécuritaire, hein, avec le groupe de mercenaires Wagner, vous venez de le citer, tout en menant des campagnes de désinformation anti-France, anti-Occident. Thierry Vircoulon, est-ce que la guerre en Ukraine a mis un frein à tout ça ? D'abord sur le plan économique, quel impact ont eu les sanctions imposées par les Occidentaux ?
Alors en effet, sur le plan économique, économique que les choses sont le plus claires, parce que les investissements des compagnies russes dans le secteur extractif et surtout dans les hydrocarbures, même s'il y en avait aussi dans les mines, ont été freinés, voire démantelés à cause des sanctions occidentales contre la Russie. Et donc, dans de nombreux cas, quand on regarde un peu la carte des investissements russes en Afrique, ces investissements ont été soit vendus, soit gelés, soit les partenaires russes sont tout simplement retirés. Donc,
par contre, les exportations continuent.
Dans le secteur des hydrocarbures, en effet, les investissements dans la production ont capoté. Par contre, comme le pétrole russe, avec les sanctions, est devenu un pétrole peu cher, sa part de marché a augmenté en Afrique. Et on a vu la flotte fantôme, beaucoup de bateaux de la flotte fantôme livrer des cargaisons de carburant dans les ports africains ces dernières années.
Par ailleurs, il continue à vendre des armes, mais beaucoup moins, j'imagine. C'était l'Algérie qui était son client majoritaire.
Oui, c'était l'Algérie qui était son premier client en Afrique. Alors sur les armes, c'est plus difficile de tracer que les cargaisons d'hydrocarbures. Et donc on a peu de chiffres, mais en effet, on pense que le marché de l'armement africain qu'ils dominaient, hein, puisqu'ils avaient, ils étaient le premier fournisseur d'armes à l'Afrique, on pense qu'ils ont perdu quand même beaucoup de parts de marché, probablement au profit de la Chine.
Ouais. Oui, la Russie reste un nain économique quand même, hein, comparé à la Chine et même à l'Europe, même les États-Unis.
Oui, tout à fait. En termes d'échanges, la Russie plafonne à 25 milliards de dollars d'échanges avec le continent africain, enfin Afrique subsaharienne, alors que la Chine et l'Union européenne sont vers 300 milliards, si vous voulez. Donc la Turquie elle-même est vers 45 milliards. Donc, vous voyez, la Turquie a beaucoup plus de relations commerciales avec l'Afrique que...
Mais oui, très faible. Hein. Là, la Russie, c'est 25 milliards, c'est vraiment faible par rapport aux autres partenaires, finalement.
Oui, tout à fait. Et malgré leur insistance, l'insistance de la diplomatie russe sur le fait qu'ils vont aider économiquement l'Afrique, qu'ils vont faire des investissements, qu'ils signent beaucoup d'accords dans des tas de secteurs, notamment dans le secteur du nucléaire, avec des pays africains dans la perspective de développer des centrales nucléaires en Afrique, etc. Tout ceci apparaît en fait comme une politique de communication. Il y a eu très peu de réalisations depuis le début de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, lors de la dernière réunion ministérielle Russie-Afrique qui s'est tenue en décembre au Caire, un certain nombre de délégations africaines ont dit justement que la Russie avait beaucoup promis et qu'il était temps qu'elle concrétise ses promesses.
On parle de quoi, par exemple ?
Ce qu'attendaient surtout les partenaires africains, ce qu'ils attendent essentiellement de la part des pays développés, c'est, même si ils ont un discours contraire maintenant, c'est de l'aide économique. Et donc, des investissements, des projets financés par la Russie, etc. Or, ceci ne se concrétise pas. Et donc, ils en prennent conscience maintenant, même si, en termes d'affichage diplomatique, ils préfèrent continuer à parfois chanter les louanges de Moscou, tout en sachant que, sur le plan économique, ils n'obtiendront pas grand-chose. Mais c'est une logique de surenchère un peu et d'une stratégie qu'on comprend bien, qui consiste à jouer différentes parties du monde dans un contexte géopolitique où on voit bien que le monde est de plus en plus fracturé, de plus en plus tendu.
La Russie, elle cherche une ouverture sur les ports maritimes, tant au Soudan à l'est du continent qu'en Afrique de l'Ouest. Récemment, Thierry Vircoulon, la Russie a passé un accord avec le Togo et bientôt avec le Bénin.
Alors c'est en effet ce qui est clair en ce qui concerne le Togo, si vous voulez, c'est que la Russie joue la carte des régimes autoritaires vulnérables. C'est-à-dire que son offre en Afrique depuis 2017, c'est toujours la même, c'est la sécurisation des régimes contre l'appui et l'accès à certaines ressources du pays. Et le régime togolais, qui est une vieille autocratie familiale, hein, puisque la famille Yadema est au pouvoir depuis longtemps, comme on dit, est un régime qui est dans cette situation de vulnérabilité et d'autoritarisme. Donc de même que c'est comme ça que le groupe Wagner est entré au Soudan, est entrée en Centrafrique, est entrée au Mali. C'est ainsi que la Russie aussi cible ce type de régime. On voit aussi qu'elle a de très bonnes relations avec l'Ouganda, parce que l'Ouganda aussi, c'est une autocratie vieillissante. On voit aussi qu'elle cible actuellement le gouvernement de transition malgache, parce que c'est un président qui est un militaire qui se sent lui aussi vulnérable et qui a peur d'un coup d'État. Et donc, elle fait des offres de sécurité à ces régimes qui se sentent vulnérables et qui, la plupart du temps, sont des régimes autocratiques.
N'empêche, je reviens sur ces accords sur les ports au Togo et à Cotonou, au Bénin. Le golfe de Guinée, de façon générale, est devenu visiblement un nouvel enjeu de ses ambitions maritimes de la Russie, Thierry Vircoulon.
Alors, pas seulement, parce qu'en fait, le port qu'elle convoite le plus, c'est pas sur la côte atlantique, mais c'est Port-Soudan,
oui.
Sur la mer Rouge.
Aussi, en effet.
Où elle demande, depuis plusieurs années, elle demande aux autorités soudanaises de pouvoir y accéder. La question du Togo, c'est surtout une question d'accès pour l'approvisionnement des pays de l'AES.
Oui, donc Mali,
Burkina Faso et Niger. Approvisionnement bon, pour les troupes paramilitaires russes qui stationnent dans ces pays et également pour faire des affaires avec ces pays puisqu'il y a actuellement un convoi d'uranium nigérien qui doit sortir par le port en effet du Togo avec un navire russe qui attend ce chargement.
Oui.
Donc c'est une question aussi d'avoir un accès portuaire pour après pouvoir prendre la route vers les pays de l'AES et pouvoir avoir un couloir logistique.
Mais ça inquiète quand même, hein, des pays occidentaux comme la France, la Belgique qui a un accord de coopération au port de Cotonou par exemple, ça peut les inquiéter, c'est justifié ?
Oui, oui, il faut en effet s'inquiéter de ça. En ce qui concerne en effet le Togo, le président togolais a été signé cet accord à Moscou. Il flirte d'ailleurs beaucoup avec l'AES, donc on voit bien que politiquement il est dans cet alignement. Il faut aussi rappeler qu'il y avait eu un convoi russe qui était passé aussi par la Guinée, hein, la Guinée-Conakry. Donc il y a cette question d'une voie logistique terrestre pour les pays de l'AES qui permettent à la Russie de l'emprunter. Donc ça c'est clair. Mais ce qui est clair aussi, c'est que en effet l'activisme russe continue sur le continent et qu'ils continuent à proposer leurs services sécuritaires, comme je le dis, que ce soit au Togo, en Ouganda ou à Madagascar actuellement.
Avec toujours autant de campagnes de désinformation anti-Occident.
Oui, oui, bien sûr, c'est une constante. Ils ont une grande maîtrise, en effet, de l'arme informationnelle sur les réseaux sociaux et de la manipulation des réseaux sociaux. C'est leur point fort et c'est une arme qui ne coûte pas cher. Donc, ils continuent, en effet, à mener des campagnes sur les réseaux sociaux un peu partout.
Merci beaucoup, Thierry.